Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Je suis allé proposer au ministère de la Santé de créer une affiche « Fumons et mourons vite ». C'est que lorsque l'on fume, notre espérance de vie est réduite de 3 ans et demi, c'est autant d'économies sur les pensions de retraite.
Vous imaginez ça un peu chez nous en France, que vous avez entendu, ça se passe au Japon, où la politique anti-tabac est pour le moins bizarre. On ne fume pas dans la rue, en revanche on peut toujours fumer au restaurant, allez comprendre. C'est l'escale reportage d'un jour dans le monde, sous les radars en Russie, avec une réforme des retraites au Bélarus, qui cherche un point de chute à Zagreb, avec son musée de la rupture amoureuse, figurez-vous. 18h50, le cinéma en VO, c'est un film d'animation ce soir qui a fait déjà beaucoup parler de lui, en bien, ça s'appelle Parvana, une enfance en Afghanistan, c'est Corinne Pellissier qui l'a vu pour nous. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. On va parler sous-traitance ce soir. Attendez, sous-traitance pourquoi ? Eh bien pour les migrants, figurez-vous. Mais avant plus de 100 candidats morts au Mexique, un pays qui a sombré dans la violence mais qui vote ce dimanche. Le Monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
C'est donc le plus vaste scrutin du pays, élection présidentielle, élection de députés fédéraux, élection de sénateurs, de gouverneurs, élection de conseillers municipaux aussi, c'est ce dimanche le 1er juillet, et c'est aussi l'élection la plus violente de l'histoire du pays. Bonsoir Alain Rouquier.
Bonsoir Fabienne Saint-Fès, c'est aussi l'élection de 9 gouverneurs.
Voilà, également.
Pour compléter.
Quel est le chiffre autour de 17 ou 18 000 personnes à élire en tout? C'est
oui,
ça que j'ai lu, ce qui est absolument colossal.
Ça, mais il n'y a pas que ça. C'est une élection extrêmement importante.
Alors, vous allez nous expliquer pourquoi.
C'est une élection extrêmement importante, aussi importante que celle de 2000 qui a donné lieu à l'alternance.
Alors, avant d'en arriver là, je voudrais d'abord qu'on essaye de comprendre. On a fait le compte d'abord des candidats qui sont morts, sérieusement, ou pas? Est-ce qu'on sait combien de gens, candidats à une élection démocratique, sont morts au Mexique ces derniers mois?
On pense qu'il y en a 160 qui sont morts. C'est pas tout à fait nouveau, c'est pas tout à fait exceptionnel. Et les campagnes électorales, au moins depuis 1997, c'est-à-dire depuis qu'il y a une véritable compétition pour le pouvoir, sont assez violents. Je dirais même, ça a commencé avant, quand le parti officiel, le PRI, s'est divisé entre une aile gauche qui est devenue le parti de la Révolution démocratique et le PRI qui restait au pouvoir.
Mais alors, c'est vrai qu'on ne découvre pas la violence au Mexique, évidemment. On a quand même l'impression que cette fois, c'est plus important que d'habitude. Est-ce que la fragmentation des cartels, parce que c'est l'explication qu'on donne le plus souvent, est responsable de ça? En gros, chacun a ses candidats et aussi ses bêtes noires et tire dans tous les sens. Est-ce qu'on peut le dire
Je
aussi bêtement que ça?
C'est plus compliqué que ça et plus simple. Quand en 2006, le nouveau président Calderón, issu du parti d'opposition, le parti d'Action Nationale, est arrivé au pouvoir, il était mal élu. À tel point que son rival, Andrés Manuel López Obrador, est resté dans la rue en disant « C'est moi qui ai été élu, je suis le vrai président et je ne céderai pas ». Il a fini par céder. Donc, il y avait une certaine illégitimité et Calderón, pour avoir une légitimité au moins extérieure aux États-Unis, s'est lancé dans ce que souhaitaient les Américains, c'est-à-dire la guerre à la drogue. Il a lancé la guerre à la drogue sans avoir les moyens, sans avoir la police, sans avoir les effectifs, sans avoir les capacités de le faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du spectacle. C'est-à-dire, on a arrêté un capo. On le montrait à tout le monde, on le mettait en prison, donc il sortait ou il sortait pas, mais parfois il en sortait, et au-dessous, eh bien, les adjoints se massacraient pour remplacer le grand chef. Et à partir de là, on a eu des balles perdues, et plus que des balles perdues, on a eu des erreurs, on a eu des gens qui ont été assassinés qui n'avaient rien à voir, parce que les sicaires sont des sicaires, ce sont des tueurs, et les tueurs, ce qu'ils aiment, c'est tuer.
On dit d'ailleurs, vous allez m'arrêter si je me trompe, Alain Rouquier, que l'arrestation d'El Chapo notamment, alors ça pour le coup c'est un peu plus tard, a été assez symptomatique et emblématique de ça, d'abord parce que c'était la honte, puisqu'ensuite il s'est évadé dans les conditions qu'on sait, mais repris derrière, mais
deux fois,
mais que cette arrestation là, en fait, est vraiment le symptôme de ce que vous dites, c'est après que les choses sont parties complètement à volo, en fait.
Mais bien sûr, parce que il faut couper le narco-terrorisme à la base, et non pas au sommet. Quand on s'attaque au sommet, eh bien derrière, il y a des successeurs, et ça donne les résultats que nous avons aujourd'hui.
Mais
avec autre chose, pour essayer de comprendre cette violence, c'est que jusqu'en 2000, le parti officiel et le président contrôlaient tout. Mmh. À partir de 2000, le fédéralisme, car ce sont les États-Unis du Mexique, n'est plus fictif. C'est un vrai fédéralisme. Le pouvoir central, à la présidence, n'a pas la main sur tout, ne peut pas tout contrôler, ne peut pas intervenir partout. Il ne peut pas, par exemple, destituer un gouverneur qui lui déplaît. Ça, c'est fini. Mmh. Ce que faisaient ses prédécesseurs. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Donc, ce qui est quand même très paradoxal, ça veut dire qu'en lâchant la bribe, avec plus de démocratie, ça veut dire plus de morts,
ça veut dire plus de n'importe quoi. Ça a été le prix à payer pour la démocratie. On est obligé de le dire parce que c'est une démocratie qui était immature et qui localement donnait beaucoup de pouvoir aux gouverneurs, aux municipalités, etc. Avec en plus des forces de police, il y a au moins un millier de forces de police dans ce pays, qui ont été rapidement pénétrées, mal payées, mal recrutées, mal formées, et qui ont été rapidement pénétrées par le narcotrafic.
Et alors si on veut se rapprocher un peu des années où nous sommes, et au retour finalement du PRI avec le précédent qui s'appelait Enrique Peña Nieto, enfin qui est encore au pouvoir aujourd'hui, en tout cas peut-être jusqu'à dimanche, on se souvient de l'arrivée de ce monsieur qui présentait très bien. Dont la femme était présentatrice télé, il y avait quelque chose d'extrêmement populaire. Il allait à la fois nettoyer son parti, changer l'image de ce parti qui a tenu le Mexique, comme vous le disiez effectivement, d'une main de fer pendant très longtemps, montrer des réformes, montrer que les choses pouvaient changer. Est-ce que c'est l'échec total de ce gars-là, en fait ?
Écoutez, je vous dirais deux choses. C'est un échec sur un certain plan. Quand il est arrivé au pouvoir, il est arrivé parce que les électeurs étaient déçus de l'alternance, déçus de l'opposition, et disaient, à l'époque du PRI traditionnel, de la présidence impériale, comme on l'a appelé, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de narcotrafic, ou s'il y en avait, on ne le voyait pas, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas d'insécurité, on va redonner le pouvoir à ces gens-là, parce qu'ils ont l'expérience et ils savent faire. Et ils ont montré qu'ils ne savaient pas faire. Quand Peña Nieto arrive au pouvoir, il a pensé que toute cette affaire était due à son prédécesseur et à son incapacité, et qu'il allait mettre ça sous le tapis. Et on n'en parlerait plus. Ben non. Ça ne s'est pas passé comme ça.
Mais alors attendez, il n'y a pas que ça quand même, j'imagine, Alain Rouquier. Alors il y a effectivement la violence endémique, il y a les cartels, il y a tout ça, mais il y a aussi une situation économique qui s'est extrêmement dégradée. Il y a un salaire horaire qui est toujours à 4 $ de l'heure. On comprend beaucoup mieux pourquoi les Mexicains essaient de traverser la fameuse frontière américaine et
là,
on y viendra.
Là, il y a des choses très importantes, à la fois de ce qu'a fait Peña Nieto et de ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'a fait Peña Nieto, ce sont des réformes qui étaient absolument indispensables. La réforme du monopole du pétrole. Vous savez que le monopole du pétrole était tel, et contrôlé par des syndicats assez corrompus, que lorsque vous vous promenez en voiture dans le Mexique, il n'y avait que Pemex qui avait des stations-service. C'est-à-dire qu'il y en avait une tous les 100 kilomètres. Bon. Et ensuite, il y avait une dépense énorme, un sureffectif, une productivité très très faible. Il a fait cette réforme, qui était celle de Calderón, que le prix avait empêché de faire. Il a fait la réforme aussi dans le domaine de l'éducation nationale. Vous savez que le domaine de l'éducation nationale, là aussi, il y avait un syndicat extrêmement corrompu, qui contrôlait les postes. Un poste ne vous est pas donné par un concours, par des examens, mais... C'est le syndicat qui vous le donne. Et lorsqu'il vous l'a donné, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le transmettre à vos enfants, vous pouvez le vendre. Et pas question d'examen, pas question d'inspection, pas question de contenu de l'enseignement de ses professeurs. Non, ça ne pouvait pas durer. Il a fait la réforme. Donc ça, c'est bon. En revanche, ce qu'il a maintenu et ce qui n'est pas bon, c'est le système, le modèle économique qui est à la base de l'accord de libre-échange nord-américain. La base du système d'intégration, disons, nord-américain, c'est la faiblesse des salaires mexicains. Et c'est ça. L'avantage comparatif du Mexique, ce sont les salaires. Et les syndicats les ont maintenus très bas. Et tous les gouvernements qui se sont succédés les ont maintenus très bas parce que c'était l'avantage comparatif. Et récemment, il y a...
C'était le seul moyen de pouvoir faire l'accord avec le Grand Duché,
voilà.
En fait.
Et récemment, il y a quelqu'un qui a osé dire « C'est formidable, nos salaires sont plus bas que ceux de Chine. » Vous voyez ?
Et donc, 4 $ de l'heure, disais, ce qui est effectivement extrêmement
bas. Et donc, il y avait mal donne parce que les Mexicains pensaient qu'ils allaient rattraper les États-Unis. Or, la différence entre le salaire des États-Unis et le salaire mexicain est toujours de 1 à 7, de 1 à 8.
Alors Alain Roquet, je voudrais qu'on y aille faire un petit aller-retour au Mexique, là, rejoindre Olivier Pujade et Gilles Gallinaro. On parlait à l'instant de la relation avec les États-Unis. Vous savez que chaque semaine, ce sont des centaines de gens qui retraversent la frontière dans l'autre sens, qui sont renvoyés au Mexique par le gouvernement américain, d'où la difficulté pour ces gens de se retrouver dans un Mexique quand ils ont vécu pendant très longtemps aux États-Unis, de trouver donc un emploi et même d'obtenir des papiers quand on a été chassé des États-Unis. On écoute le reportage d'Olivier et Gilles, on se retrouve juste après.
Le Mexique, c'est mon pays. Mais je ne me sens pas chez moi. Là-bas, dans l'Utah, c'est chez moi. Mais ce n'est pas mon pays.
La loi tourne en rond dans le local de l'association. Les déportés mexicains se réunissent ici. Il a été expulsé des États-Unis à l'âge de 23 ans, après avoir passé 18 ans de l'autre côté de la frontière. Il cherche encore ses mots en espagnol.
Je me suis senti kidnappé. Comment on dit déjà ? Séquestré. Oui, c'est ça, merci. C'est comme si on m'avait volé ma vie.
Sa vie a basculé en l'espace d'une journée.
Le matin, j'ai dit à ma coloc, on se voit ce soir à la sortie du boulot pour boire une bière. Et je ne suis jamais revenu.
Le souvenir de Lalo date pourtant d'il y a 6 ans. Trump incarne aujourd'hui la cruauté d'une politique de migration sans pitié, mais c'est bien sous l'administration Obama que ces vagues d'expulsion ont débuté. Alicia est au contact de ceux qui disent n'être ni d'ici ni de là-bas. Elle prépare une thèse sur la problématique migratoire entre le Mexique et les États-Unis.
Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que Trump intensifie la persécution des immigrés à l'intérieur de son territoire. Des vagues de déportation de personnes qui sont installées depuis 10, 15, 20, 30 ans. Ça n'arrivait pas avant. Et pour des infractions dérisoires. Un excès de vitesse, ils te demandent tes papiers, tu ne les as pas, ils te placent dans un centre et ils t'expulsent.
2 millions de familles ont ainsi dû quitter les États-Unis sous la présidence d'Obama, 79% de Mexicains. Les autres viennent d'Amérique centrale, deux catégories de migrants que l'État mexicain ne gère pas de la même manière, observe Anna Paola, une déportée arrivée de Chicago il y a un an tout juste.
Le gouvernement ici a toujours été grande gueule sur notre situation. Beaucoup de discours et très peu d'actions sur la problématique de ceux qui sont en transit, c'est-à-dire les migrants d'Amérique centrale. Le Mexique fait le sale travail pour les États-Unis. Et ça, ce n'est pas correct. Le Mexique devrait se déclarer zone de libre circulation pour ces personnes et laisser les États-Unis faire ce qu'ils veulent. Mais que le Mexique ne soit pas complice.
Un accord signé avec les États-Unis en 2014 engage le gouvernement mexicain à surveiller sa frontière sud pour repousser les migrants remontant d'Amérique centrale. En 4 ans, le contexte a changé, d'après l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jorge Castañeda. Ce dispositif n'a plus aucun sens.
C'est pas vrai que c'est dans l'intérêt du Mexique de placer notre armée, notre marine, notre police à la frontière sud pour empêcher l'entrée de Centra-Américains qui ne veulent qu'aller aux États-Unis. Depuis des années, on fait ça pour les Américains. Mais il n'y a plus de président ami du Mexique. Alors pourquoi continuer ? Quel que soit le candidat qui va l'emporter dimanche, il va être obligé de changer de cap vis-à-vis des États-Unis, au moins dans ces domaines-là.
Donald Trump, son projet de mur, ses insultes permanentes exaspèrent les gens ici. Il y a 2 jours, dans un de ses tweets, le président américain comparait ses voisins mexicains à des envahisseurs.
Et merci à Olivier Pujade et Gilles Gallinaro pour leur reportage. Alain Rouquier, combien ça pèse dans la campagne, ça, les migrants, la relation avec les États-Unis, ce fameux changement de cap nécessaire dont parlait l'intervenant dans le reportage à l'instant.
C'est essentiel parce que c'est 80% des exportations mexicaines, parce que les deux économies sont absolument imbriquées, parce que la plupart des industries mexicaines sont soit des investissements américains, soit de la sous-traitance américaine.
Mais ça veut dire qu'on ne peut pas changer de ton avec Trump comme
non,
avec
problème,
qui que ce soit.
Le problème, c'est que le Mexique ne peut pas changer facilement de modèle. Mm-hmm. Le modèle, c'est celui de l'accord de libre-échange nord-américain. Le modèle, c'est celui de la sous-traitance mexicaine par rapport aux États-Unis. Et on n'en change pas du jour au lendemain. Et il y a le risque que Trump donne un coup de pied dans la table et dise « Bon, moi, j'en veux pas de cet accord, parce qu'il est, de toute façon, il est contre. » Le seul arme qu'a le Mexique, c'est justement ce que critiquait Jorge Castaneda, c'est de contribuer à la sécurité de la frontière américaine. C'est de faire la sécurité du Sud, la sécurité du Guatemala, de l'Amérique centrale, dans le passage des migrants vers les États-Unis.
Des hotspots en Amérique du Sud avant d'arriver jusqu'au Mexique.
Et ça, c'est un argument de poids pour les États-Unis.
Une dernière chose, Alain Roquier, parce qu'on n'en a pas réellement parlé, Andrés Manuel López Obrador, celui qui est en tête aujourd'hui, qui sera probablement élu, est-ce qu'il a les moyens de changer réellement quelque chose, à la fois à ce qu'on disait sur les cartels au début de notre discussion, mais également sur les relations avec les États-Unis? Est-ce qu'il y a vraiment du levier en fait chez ce monsieur-là?
Écoutez, les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. On ne sait pas du tout quel est le programme de López Obrador. C'est un politicien expérimenté, mais il sort du creuset du PRI, qu'elle est entrée dans les années 70.
Oui, c'est pas un homme neuf en politique.
Pas un homme neuf, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il a un parcours qui a été intéressant. Il a été un bon maire de la ville de Mexico, mais on ne sait pas quel est son programme. Sauf se débarrasser de ce qu'il appelle ses ennemis, la mafia qui lui a volé le pouvoir en 2006. Alors qu'il a perdu pour quelques voix les élections, certainement avec quelques fraudes bien placées.
À la mexicaine, on suivra ces élections de dimanche avec beaucoup d'intérêt. Alain Roquier, merci beaucoup. Politologue, directeur de la Maison de l'Amérique latine à Paris. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde est au Japon avec un nombre de fumeurs qui descend, figurez-vous, mais pourtant une politique anti-cigarette totalement baroque. Sous les radars avec une réforme des retraites en Russie, avec un Bélarus qui veut demander l'asile et un musée de la rupture amoureuse, figurez-vous, il est à Zagreb et je vous emmènerai le visiter. Le cinéma en VO, ça se passe à Kaboul, c'est un film d'animation épatant, Corinne Pellissier.
Voilà, une grande leçon d'espoir avec une petite fille afghane qui s'appelle Parvana, bourrée de ressources et d'imagination face à l'oppression.
Et à tout à l'heure, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le prix des migrants aujourd'hui, Jean-Marc, c'est celui de la sous-traitance.
Et voilà, exactement. L'Union européenne semble décider à faire de la sous-traitance aux pays tiers sur le dossier des migrants. Normalement, la sous-traitance, ça permet de faire des économies. Normalement.
Allez, le tour de la planète continue. À tout à l'heure, à tous les deux. Voici The Temptation, My Girl. Temptation sur France Inter, quel plaisir, My Girl. Virginie Pironon est là sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un
jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Virginie, on commence avec la Russie, une réforme qui ne passe pas inaperçue malgré le mondial de foot d'ailleurs.
Pour la première fois depuis 1932, le gouvernement a décidé de toucher là aussi à l'âge de départ à la retraite. Il est parmi les plus bas du monde, 55 ans pour les femmes, 60 pour les hommes, un acquis social de l'époque soviétique. Et pour annoncer cette réforme très impopulaire, quelle date à votre avis a choisi le gouvernement russe ? Évidemment, le jour du lancement de la Coupe du Monde. Mais pas de quoi détourner l'attention des principaux concernés. En quelques jours, plus de 2,5 millions de personnes ont signé une pétition contre la réforme qui doit être discutée au Parlement. Alors que Vladimir Poutine l'avait promis, toucher à l'âge de départ à la retraite. Jamais, en 2005 d'ailleurs, le ton est très ferme.
Я против увеличения сроков пенсионного возраста. Et пока я президент, такого решения принято не будет.
Vladimir Poutine est contre. Et tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aura pas de décision en ce sens, dit-il. Même chose en 2007, en 2011, 2015. Attention, léger fléchissement en 2017. Tous les pays qui nous entourent, Bélarus, Kazakhstan, tous ont déjà pris la décision. Et en 2018, vous connaissez ma position, dit-il. J'ai toujours été contre, mais je crois qu'il faut y aller tout doucement et de façon très prudente. Très prudent, Vladimir Poutine, qui sait à quel point la mesure est impopulaire. Sa cote de popularité a d'ailleurs pris un coup. Selon l'Institut de sondage public Stiom, seul 42% des Russes désormais disent lui faire confiance.
Mais du coup, il donne pas l'âge, on est d'accord. Il dit pas ce qu'il veut faire.
C'est un tout petit peu plus. C'est ça qui fait polémique. C'est qu'en Russie, pour les femmes, c'est 2 ans après l'espérance de vie moyenne et 1 an après les hommes, soit 66 et 68 ans.
D'accord, ce qui change beaucoup par rapport à 55. Et puis Virginie, toujours à l'Est, cette petite phrase qui fait dire que la Fédération de Russie pourrait peut-être bientôt compter une république de plus.
C'est ce que vient de laisser entendre le président du Bélarus, l'autoritaire Alexandre Loukachenko, à la tête du pays depuis 94, fidèle à son langage fleuri et à son accent rural, souvent moqué par les Russes.
Мы на фронте не выдержим эти годы, провалимся.
À propos de la situation économique du pays, Alexandre Loukachenko lâche « Nous allons devoir faire partie d'un pays, sinon nous servirons bientôt de paillasson ». Il ajoute également la menace d'une guerre comme en Ukraine. Il a dit « Faire partie d'un pays ». Et au Bélarus, les internautes s'amusent évidemment. Un pays, oui, mais lequel ?
Allez, vous nous emmenez maintenant dans un nouveau musée. C'est en Croatie, à Zagreb. Et c'est un musée, je trouve ça incroyablement savoureux, des ruptures amoureuses.
Oui, une sorte de musée de l'amour, mais à l'envers, explique son cofondateur, Dražen Grubišić. C'est une idée qu'il a eue avec son ex.
We were breaking up and discussing what to do and you know how to go through breakup and what to do with the objects that are left.
Dražen Grubišić, interrogé par la BBC, nous explique qu'avec sa compagne, ils étaient en train de rompre et qu'ils se demandaient tous les deux quoi faire pour vivre au mieux leur séparation et que faire aussi des objets qu'ils allaient laisser derrière eux. Des objets chargés, imprégnés en quelque sorte de leur histoire et qui avaient un sens uniquement grâce à leur relation. Et voilà comment est née l'idée de ce musée.
Kept and it's safe.
Et les dons sont arrivés du monde entier. Une vieille montre, par exemple, avec cette inscription. Elle aimait les antiquités et tout un tas de vieilles choses qui ne marchaient pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne sommes plus ensemble. Plus vindicatif et insolite encore, un toaster. Et cette explication, quand j'ai déménagé, j'ai pris le toaster. Ça te donnera une bonne leçon. Hein, tu vas faire comment maintenant pour les faire griller tes toasts ? Voilà, des amours qui se fanent. C'est sec et ratatiné comme du pain grillé.
Moi, je trouve que l'idée est absolument géniale. J'en profite pour réclamer une paire de bottes que j'ai oubliées un jour dans la précipitation. J'espère qu'elles ne sont pas dans ce musée. Et il n'y a pas prescription, je le regrette. Merci Virginie.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et si je vous emmenais au Japon ? Je vous amène au Japon, mais clope au bec. Alors attendez, avant de hurler, je vais vous donner quelques chiffres d'abord, parce que le Japon a des chiffres de fumeurs qui nous intéressent, mais des méthodes, en revanche, qui sont assez étonnantes. Donc, 28% des hommes fument au Japon, 9% des femmes. Les proportions, tenez-vous bien, c'était 80% des hommes et 15% des femmes. Il y a tout juste 50 ans, avouez que les progrès sont fulgurants. Bonjour Karine Nishimura Poupée.
Bonjour Fabienne.
Alors, nous, ce qu'on se dit, Karine, en vous écoutant, c'est que du coup, les lois ont dû devenir d'un seul coup extrêmement restrictives pour que ce chiffre bouge. Eh bien, pas du tout. C'est ça qui est fou et que vous allez nous raconter. On vous suit, Karine, dans les rues de Tokyo.
Eh bien oui, là je me trouve dans le quartier de Ginza à Tokyo. Venez avec moi, je vais vous emmener voir le policier là-bas. On va lui demander si je peux allumer une cigarette. Dame en japonais, c'est un nom catégorique, car on n'a pas le droit de fumer dans la rue à Tokyo pour des raisons de propreté et de sécurité. Il faut aller vers des espaces fumeurs extérieurs avec cendrier. Suivez-moi, cette fois, on va dans un restaurant au 13e étage. Bonjour, c'est pas complètement non-fumeur ici ?
On peut fumer tous les jours, à partir de 13h.
Voilà, vous avez compris, comme ce touriste français rencontré tout à l'heure.
Oui, c'est assez paradoxal, on peut pas fumer dans la rue, mais par contre on peut fumer dans le restaurant et perturber tout le monde.
Non seulement les bars et restaurants n'interdisent pas de fumer, mais en plus, encore souvent, on n'est pas prévenu, ce qui a aussi désagréablement surpris cette Française de passage.
Les endroits où nous sommes allés, il n'y a même pas d'espace non-fumeur ou fumeur. On rentre, on s'assoit et puis il y a des gens à côté de nous qui allument une cigarette.
Ce n'est pas le pire. Au Japon, il reste possible d'en griller une dans des espaces fumeurs à l'intérieur des établissements scolaires et même des hôpitaux. Mais le pire qu'on ait trouvé, ce sont les salles de jeu, des lieux aussi irrespirables qu'ils sont bondés et assourdissants. Donc, le Japon est encore un paradis pour les fumeurs, d'autant qu'on n'a aucun mal à trouver des cigarettes. Là, je me dirige vers une supérette, un combini en japonais. Petit magasin d'une centaine de mètres carrés, ouvert 24 heures sur 24. Il y en a 55 000 environ dans tout le Japon. Et ce sont les principaux lieux de vente des cigarettes. Il y a plus de 100 variétés exposées bien en vue dans des paquets tape à l'œil. Quel est le prix de ces cigarettes ?
Celle-ci, environ 3 euros.
Voilà, donc 3 euros, Karine, on est quand même très très loin de nos paquets à bientôt 10 euros, pas de paquet neutre, on a bien compris, restaurant en fumée, école, hôpitaux. Et pourtant, c'est pas si mal parce que c'était encore pire avant, c'est ce que vous a raconté cette touriste américaine que vous avez rencontrée.
Dans les restaurants, les hôtels, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à ce que c'était il y a 5 ans.
Hélas, on est encore loin du compte, selon les associations anti-tabagisme, dont un représentant, Kazuo Hasegawa, atteint d'un cancer, a plaidé récemment devant une commission parlementaire. Monsieur Hasegawa est très remonté contre le parti au pouvoir qui n'a cessé depuis des années de ratiboiser un texte en discussion censé protéger les non-fumeurs du tabagisme passif dans les espaces accueillants du public.
Je suis absolument opposé à cette loi du gouvernement qui, de facto, juge acceptable que l'on fume dans les établissements scolaires, alors même que doivent prochainement y être systématiquement dispensés des cours sur ce qu'est le cancer. Il va sans dire que la meilleure prévention, c'est de ne pas fumer. Et les élèves doivent aussi savoir ce qu'est le tabagisme passif.
Le texte, qui devrait quand même finir par entrer en vigueur dans les mois à venir, limite l'interdiction stricte de fumer dans les restaurants aux établissements dont la surface dépasse 100 mètres carrés. Pour les autres, il restera possible de fumer sous certaines conditions. De facto, 55% des restaurants seront exemptés. Cela, c'est au niveau national, mais les municipalités peuvent durcir les règles, comme le prévoit la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike.
Le principe de base, ce sera l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant beaucoup de monde. Même chose donc pour les hôtels, les auberges traditionnelles, les lieux de travail, les commerces de bouche, les espaces de loisirs. En revanche, sous certaines conditions, il sera possible d'y installer des espaces fumeurs. Nous punirons par une amende les usagers ou gérants qui contreviendront à la loi.
Ces sans même attendre que ces dispositions soient entrées en vigueur, ce qui devrait être le cas en 2019 dans la capitale nippone à l'occasion de la Coupe du Monde du rugby, certains restaurants ont devancé l'appel. Mais du coup, les gros fumeurs font du tapage contre ce qu'ils appellent, n'ayons pas peur des mots, du fascisme anti-fumeur. Et ils donnent de la voix, y compris dans les émissions de télévision ou en ligne. Écoutez le célèbre et influent économiste Kakuro Morinaga, fumeur notoire et ostentatoire.
Je suis allé proposer au ministère de la Santé de créer une affiche disant « Fumons et mourons vite ». C'est que lorsque l'on fume, notre espérance de vie est réduite de 3 ans et demi, donc on coûte moins cher à la société, puisque c'est autant d'économies sur les pensions de retraite.
Heureusement, cette opinion n'est pas la plus répandue et les femmes, notamment quand elles sont mamans, se réjouissent des mesures qu'est en train de prendre la gouverneure de Tokyo qui veut, en 2020, des Jeux Olympiques flamboyants, mais sans trop de fumée.
Étonnant Japon, et merci pour la visite, Karine Nishimura Poupée, correspondante pour France Inter et pour l'AFP à Tokyo. King Tuff sur France Inter, Psycho Star. King Tuff, Psycho Star sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
3, 2, 1, let's go. France Inter. Le 18-20.
Appelons ensemble votre jour.
And the winner is... Un jour dans le monde. Action.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Comme tous les mercredis, Corinne, cette semaine, vous venez avec l'adaptation d'un best-seller de la littérature jeunesse qui a déjà fait sensation au Festival d'Annecy, prix du jury, prix du public. Ça s'appelle Parvana, une enfance en Afghanistan. C'est l'histoire d'une petite fille à Kaboul qui n'a jamais rien connu d'autre que la guerre et les talibans. C'est un film d'animation. Bande annonce d'abord.
My family is in a desperate situation.
Girl, stop when I tell you.
I'm going to find Boba.
No, you're not.
I'm going. There's nothing you can do to stop me.
Maybe if we think of it like a story, huh?
Is it a happy story or a sad story?
Alors, histoire joyeuse ou pas, vous allez nous le dire. Emmenez-nous, prenez-nous par la main. Corinne, direction l'Afghanistan.
Voilà, direction Kaboul, où est née Parvana, la jeune héroïne du film que l'on découvre en compagnie de son père sur un marché. Une vie assez pauvre, mais heureuse parce qu'ils passent beaucoup de moments ensemble à inventer des histoires sur la route de la soie, sur la vie du peuple afghan, sur la vie avant la guerre, avant les talibans, avant l'oppression et avant la prison. Car tout va basculer pour Parvana le jour où son père est enlevé à sa famille et incarcéré par des talibans. Parvana n'a que 11 ans, mais elle va découvrir à ce moment-là eh bien, qu'elle est largement assez âgée pour se conformer, comme toutes les femmes du pays, au principe de la loi islamique. Pas de travail, pas d'argent, pas de course, pas de sortie sans être accompagnée d'un homme.
Et donc c'est là que Parvana va devoir faire preuve d'un sens aigu de la débrouille et de l'imagination.
Elle n'a pas le droit de sortir parce qu'elle est une femme. Eh bien, très bien, elle deviendra un garçon. Fini Parvana, bonjour Atish. Cheveux courts, vêtements d'homme, quotidien déjà vu, revu par de nombreuses femmes en Afghanistan ou même en Iran. Golshifteh Farahani, la voix française de Parvana dans le film, a tout de suite vu les points communs entre son adolescence et celle de son personnage.
On a des points en commun. Moi aussi, je me suis rasé la tête deux fois et j'ai joué un garçon quand j'étais adolescente. Mais pas pour survivre biologique, comme pour manger et boire, mais pour survivre artistique, et culturel, intellectuel. Ce que ça m'intéresse sur ce genre de personnage, c'est que la vie est dure. Mais en même temps, situation terrible, terrifiante, laisse pas les gens rester dans le noir. Ils sortent de la boue, de la merde, et ils vont vers la lumière. Ils n'ont pas les victimes. C'est la nécessité de la vie qui leur pousse de vraiment pas accepter les choses qu'ils ont imposées sur eux. Moi, je trouve, si je peux choisir encore, je vais choisir d'être née en Iran au milieu de la guerre et après vivre un régime fasciste, théocratie islamique là-bas encore, parce que ça m'a poussé vers vraiment rendre tous les impossibles possibles.
Alors, Corinne, est-ce que c'est pour ça, pour toutes ces raisons-là, toutes ces ressemblances, en fait, qu'elle a été choisie, vous pensez ?
Alors, elle et les autres, hein, la réalisatrice voulait absolument travailler avec des artistes en exil, confrontés aussi aux difficultés du quotidien, qui ont dû se servir de leur imagination pour s'en sortir, comme Parvana. Alors, bien sûr, c'est un film qui s'adresse à toute la famille. Il y a forcément plusieurs niveaux de lecture. Et c'est d'ailleurs ce qui a intéressé Golshifteh Farahani. Comment on montre la guerre aux enfants ? Comment l'animation peut parfois prendre le relais de la parole ?
À travers les dessins animés, on recevoir tellement d'émotions, tellement de beauté et bonté. Ce film, c'est un chef-d'œuvre. Tout est très juste. Rien n'est accentué. Il n'y a pas des slogans parce que le film est point de vue d'un enfant. Alors les enfants, ils voient pas c'est quoi Taliban, c'est quoi les islamistes. Ils comprennent pas ça. Ils voient les méchants qui font mal au père ou les gens bien qui peuvent demander l'aide. Et c'est ça qui est beau. En fait, c'est une partie de notre vie. C'est terrible. En fait, la condition des femmes en Afghanistan, je peux dire, c'est probablement le pire. L'endroit géographique qu'on a le plus de pression sur les femmes, toujours les femmes qui doivent payer les prix pour l'ignorance de l'humanité. En même temps, c'est eux qui résistent, c'est eux qui ont les mères, c'est eux qui travaillent sur les terrains, c'est eux qui font tout.
Allez, ça s'appelle, comment ça s'appelle ? Parvana, une enfance en Afghanistan, pardon.
C'est un film qui est produit par Angelina Jolie, qui a créé une école pour les filles à Kaboul. Elle fait partie aussi des ambassadrices de l'ONU, elle est très active dans la région.
Et on dit, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, que c'est signé de Nora Tommy, qui est grande spécialiste des films d'animation. Elle a déjà gagné beaucoup de prix dans ces directions-là. Et puis Deborah Ellis, qui elle est canadienne, et c'est au cinéma ce mercredi, on a bien compris qu'on peut y aller.
Gros coup de cœur.
Voilà, on y va avec ses enfants, mais on peut regarder aussi avec un œil d'adulte, Corinne Pellissier. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four, le dossier des migrants. Jean-Marc continue d'empoisonner, c'est le moins qu'on puisse dire, l'agenda européen. Nouvelle controverse sur l'accueil d'un nouveau navire, le Lifeline, qui devrait finalement accoster à Malte. C'est prévu ce soir. Et puis surtout, négociations tendues avant le sommet de Bruxelles. Ce sera demain, jeudi et vendredi. L'Europe, donc, de plus en plus décidée à déléguer ce sujet à des pays tiers, à ses frontières. L'idée pourrait paraître séduisante et facile, mais dans votre monde à l'envers, Jean-Marc Four, vous, ce soir, vous dites attention, cette idée a un prix et le prix est élevé.
Et ce soir, je vous ai apporté un dictionnaire, voilà. Le voici, un c'est le petit
vrai.
Robert.
Vous êtes encore
absolument.
Le dernier
et vous
avoir
un dictionnaire. On va l'ouvrir à la page sous-traitance. Voilà, nous y sommes. Sous-traitance, définition. Contrat par lequel une entreprise demande à une autre entreprise de réaliser une partie de son travail. Eh bien, ça pourrait s'appliquer à la politique migratoire de l'Union européenne. Je m'explique. Demain donc à Bruxelles, c'est demain la partie migrants du sommet, l'Europe ne va pas s'entendre sur la répartition en son sein des migrants déjà présents dans l'Union. Les pays de l'Est sont contre. Elle ne va sans doute pas s'entendre non plus sur la création de centres d'accueil fermés dans les pays de premier accueil, toujours au sein de l'Union. Pour le coup, c'est l'Italie qui n'est pas d'accord. Elle va peut-être s'entendre sur le renforcement des effectifs de police aux frontières, c'est le dispositif Frontex, mais annoncer un chiffre même spectaculaire, 10 000 hommes, ne réglera pas les problèmes de coordination logistique entre toutes ces troupes. Alors qu'est-ce qui reste comme point d'accord au niveau européen ? Dénoncer les ONG, un peu facile quand même.
Entendu.
Voilà, et surtout s'entendre sur ce qui était inimaginable il y a encore quelques mois, délocaliser les centres d'accueil ou de tri des migrants. Délocaliser, ça veut dire les installer en dehors de l'Union, confier à des pays tiers la tâche de séparer les réfugiés politiques des émigrés économiques. Pas simple la tâche, soit dit en passant. En tout cas, nous y voilà, c'est bien quoi ? De la sous-traitance. On confie à quelqu'un d'autre le traitement d'un sujet dont on ne veut pas s'occuper soi-même parce qu'on estime le coût trop élevé, en l'occurrence le coût électoral trop élevé. Le problème, c'est que la sous-traitance, ça peut aussi coûter très cher.
Donc là, vous dites financièrement ?
Financièrement d'abord, oui. Les sous-traitants, on le sait, sont identifiés. Il y a d'abord les pays de transit, la Turquie, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, le Niger. Et là, on a déjà du recul sur le sujet avec l'exemple turc, puisque l'Europe a passé un deal avec Ankara il y a 2 ans. C'est simple, on paye la Turquie pour qu'elle garde les réfugiés et aujourd'hui, elle en a près de 4 millions. Sauf qu'en contrepartie, combien l'Europe a-t-elle déjà dépensé ? 7 milliards. Et 7 milliards de plus, on double la mise, pour les 3 ans à venir. Avec un petit souci quand même, hein, la Cour des comptes européenne dit ne pas bien savoir où va l'argent en Turquie. Deuxième exemple, la Libye. Centre de rétention, formation des gardes-côtes, aide européenne au développement. C'est une formulation pudique. En réalité, il y a très très peu de garanties sur l'aide aux migrants dans le respect du droit. On l'a entendu avec le reportage de Géraldine Allot dans le journal de 18h tout à l'heure. Et là, déjà près de 250 millions d'euros versés à la Libye, dont on ne sait pas précisément non plus dans quelle poche ils vont. Et puis ensuite, au-delà des pays de transit, il y a les pays de départ. Le Soudan, la Somalie, l'Afghanistan, etc. Mais alors là, si on veut vraiment dissuader les candidats à l'exil de partir, ce sont pour le coup des dizaines et des dizaines de milliards qu'il va falloir débloquer pour relancer des machines économiques qui sont à l'arrêt quasi complet.
Mais alors en même temps, soyons cyniques, est-ce que ça vaut pas le coup de dépenser de l'argent, y compris beaucoup d'argent, si politiquement on gagne ?
Évidemment, le raisonnement se défend, mais est-ce qu'on est bien sûr d'y gagner politiquement ? Passons sur la dimension morale du sujet, le renoncement aux valeurs d'accueil, de partage et d'humanisme qui ont fondé l'Europe, et restons sur ce que vous disiez, c'est-à-dire le cynisme, la politique au sens de l'intérêt, bien compris Machiavel. La sous-traitance, ça consiste en l'occurrence à aider d'abord des tyrans. Dans les pays de transit, seuls les régimes, disons, forts, sont prêts à assumer le coût politique. Nous finançons donc le président Recep Tayyip Erdogan en Turquie et les milices en Libye. Il y a bien dans la liste des sous-traitants potentiels des pays plus fréquentables, par exemple l'Albanie. Mais pour le coup, son Premier ministre ne veut pas entendre parler de tels centres sur son sol pour des raisons morales. Mmh. Tiens, voilà la morale. Et dans les pays de départ, cette fois, cette politique, elle va favoriser des accords douteux avec des régimes autoritaires, du Gabon au Soudan, passant par le Cameroun. Empêchez vos ressortissants de partir et nous fermerons les yeux sur vos agissements en matière de liberté. Donc évidemment, à court terme, la sous-traitance est séduisante. Mais à moyen terme, on se soumet potentiellement au chantage des dictateurs sur le mode « continuez de m'aider hein, parce que sinon je vais ouvrir les vannes migratoires ». Et à plus long terme, on n'évitera pas de nouvelles vagues d'exode, encore plus importantes au vu de l'explosion démographique en Afrique. Ça s'appelle le rêve d'une vie meilleure, c'est le propre de l'homme et la sous-traitance n'y changera rien.
Et ça s'appelle Le Monde à l'envers. Et c'est signé Jean-Marc Four. C'est tous les jours dans Un jour dans le monde, le 18-20. La suite, c'est le journal de Pierre Veille, évidemment. Et puis ce sera le téléphone sonne. Vos questions ce soir pour Philippe Lançon et pour Chloé Bertolus, chirurgien maxillofacial, celle qui s'est occupée de lui. Merci de passer la soirée avec nous. Il est donc 19h.